Chapitre 2 : La société dans la cave. Il peut être fort agréable, en certains moments, de se promener le long en large sous les tilleuls, mais ce n'est pas assurément dans la nuit de Saint-Sylvestre, par une bonne gelée quand il neige à foison. La tête nue et sans manteau, comme j'étais, je finis par m'en apercevoir au frisson glacial qui me saisit, malgré la fièvre ardente dont j'étais dévoré. Je repris ma course, je traversai le pont de l'Opéra en passant devant le château, puis celui de l'Écluse après avoir tourné la Monnaie, et j'arrivai dans la rue des Chasseurs à côté de la boutique de Thiermann. Là, des lumières engageantes brillaient à travers les croisées, et je me disposais à entrer pour me réchauffer et boire quelques bons verres d'une ligueur réconfortante. En ce moment, il sortit du cabaret une société de joyeux compagnons qui parlait d'huîtres délicieuses et de l'excellent vin de la Comète. « Ma foi !» s'écria l'un d'entre eux, qu'à la lueur des lanternes je reconnus pour un superbe officier des Uhlans. « Il avait bien raison, celui-là, de pester l'année dernière à Mayence contre ces maudits animaux, qui en 1794 s'étaient bien gardés de lui donner à boire du vin de la Mazon. » Tous se mirent à rire à gorge déployée. J'avais avancé volontairement quelques pas plus loin, et je m'arrêtai court, vis-à-vis d'une cave d'où s'échappait la lueur tremblante d'une lampe solitaire. Le Henri V de Shakespeare ne se trouva-t-il pas un jour si modeste et si altéré que la pauvre créature appelée Petite Bière lui vint à l'esprit? La même chose m'arriva en effet. Ma langue était avide de plonger dans l'écume d'un flocon de bonne bière anglaise. J'entrai immédiatement dans la salle basse. « Que désire, monsieur ?» me dit l'hôte en venant à moi d'un air accord et portant la main à son bonnet. Je demandai une bouteille de bonne bière anglaise avec une bonne pipe de bon tabac, et je me trouvai bientôt dans un état de béotisme tellement sublime que le diable lui-même en conçut du respect pour moi et me quitta. « Ô conseiller de justice ! Si tu m'avais vu au sortir de ton salon, si resplendissant, venant m'attabler dans ce sombre caveau et préférant cette humble bière à ton noble thé, de quel air hautain et méprisant ne te serais-tu pas détourné de moi en murmurant sans doute « Il n'est pas étonnant qu'un pareil homme abîme les plus élégants jabots. » Fier comme j'étais, sans chapeau ni manteau, je devais produire sur les assistants un effet tant soit peu extraordinaire. Une question voltigeait déjà sur les lèvres de l'hôte lorsqu'on frappa en dehors au carreau et une voix s'écria d'en haut « Ouvrez, ouvrez, c'est moi !» L'hôte courut aussitôt et rentra immédiatement avec deux flambeaux allumés qu'il tenait élevés dans ses mains. Un homme, fort grand et élancé, le suivait. Il oublia de se baisser en passant sous la porte basse et se cogna rudement à la tête. Mais une calotte noire qu'il portait en guise de toque amortit le coup. Il se glissa d'une manière toute particulière le long de la muraille et vint s'asseoir en face de moi. L'hôte en même temps posait les deux lumières sur la table. On pouvait presque dire de cet homme qu'il avait une physionomie aussi morose que distinguée. Il demanda d'un air soucieux de la bière et une pipe et, en quelques aspirations, il produisit une telle fumée que nous nageâmes bientôt dans un épais nuage. Du reste, son visage avait quelque chose de si caractéristique et de si attrayant qu'en dépit de son air sombre, je me sentis tout d'abord du penchant pour lui. Ses cheveux noirs et abondants étaient séparés sur son front et retombaient de deux côtés en nombreuses petites boucles, ce qui le faisait ressembler au portrait de Rubens. Lorsqu'il eut déposé son grand collet, je vis qu'il était vêtu d'une courte cape noire garnie de quantités de brandebourgs. Mais ce qui me surprit étrangement, ce fut de voir, ce dont je m'aperçus quand il secoua sa pipe qu'il avait achevé de fumer en moins de 5 minutes, qu'il avait mis par-dessus ses bottes d'élégantes pantoufles. Notre conversation était peu active. L'étranger paraissait très occupé de toutes sortes de plantes rares qu'il avait retirées d'un étui et qu'il considérait avec satisfaction. Je lui exprimais mon admiration pour ces jolies plantes, et comme elles paraissaient avoir été récemment cueillies, je lui demandais s'il avait été par hasard au jardin botanique ou bien chez Boucher. Il sourit d'une façon assez étrange et répondit: La botanique ne paraît pas être votre fort, autrement une question aussi. Il hésitait. Aussi sotte, murmurai-je à voix basse. Oui, ne serait pas sorti de votre bouche, ajouta-t-il naïvement. Vous auriez, poursuivit-il, reconnu du premier coup d'œil des plantes alpines, et celles-là d'entre elles encore, qui croissent sur le Chimborario. Ces derniers mots, l'étranger les prononça à voix basse et à part lui. Mais tu peux t'imaginer quel singulier effet ils produisirent sur moi. 20 questions expirèrent sur mes lèvres, et il me vint à l'esprit un soupçon de plus en plus décidé que j'avais déjà, sinon vu cet étranger, du moins plus d'une fois rêvé à lui. On frappa de nouveau au carreau. L'hôte ouvrit la porte et une voix s'écria: Ayez la bonté de couvrir votre miroir. Oh, oh, dit l'hôte, en jetant aussitôt un voile sur la glace. Le général Souvarov arrive un peu tard. En effet, bientôt s'élança dans la salle avec une vitesse traînante, je dirais presque une agile lourdeur, un petit homme sec, enveloppé d'un manteau d'une couleur brune toute particulière, et qui voltigeait autour de son corps, tandis que lui sautillait dans la chambre en formant 1000 petits plis et replis si compliqués qu'au reflet des lumières, on croyait voir se mouvoir plusieurs figures superposées les unes aux autres, comme celles des scènes fantasmagoriques d'Esther. Et en même temps, il se frottait les mains, cachées sous de larges manches, et s'écriait « Froid, froid, très froid !» En Italie, ça, c'est différent, bien différent. Enfin, il prit place entre le grand étranger et moi en disant « Ah, voilà une épouvantable fumée !»« Tabac contre tabac, si seulement j'avais une prise !» J'avais sur moi la tabatière d'acier poli, clair comme une glace, dont tu m'as fait cadeau un jour. Je la tirai aussitôt de ma poche pour offrir du tabac à mon voisin. Mais à peine l'eut-il aperçu qu'il la couvrit de ses deux mains et s'écria en la repoussant: « Arrière, arrière, cet abominable miroir !» Sa voix avait quelque chose d'effrayant, et lorsque je le regardais tout surpris, je le trouvais métamorphosé. Le petit homme avait en entrant le visage ouvert et riant d'un jeune homme, mais à présent c'était un vieillard aux traits flétris et ridés, pâle comme la mort, qui fixait sur moi des yeux caves et ternes. Saisi d'effroi, je me rapprochai de mon autre commensal, prêt à m'écrier « Mais au nom du ciel, regardez donc !» Mais celui-ci était enfoncé dans l'examen de ses plantes du Chimborazo, et au même moment, le petit dit à l'hôte dans son langage prétentieux « Vin du Nord !» Peu à peu, le dialogue devint plus animé. Le petit m'était à la vérité très suspect, mais le grand savait, à propos de choses en apparence insignifiantes, raconter des faits intéressants et curieux. Et quoiqu'il parût lutter contre la difficulté de s'exprimer, et qu'il se servît même quelquefois de mots impropres, cela donnait précisément à ses discours une originalité comique. De sorte qu'il atténuait, en éveillant de plus en plus ma sympathie, l'impression désagréable que le petit faisait sur moi. Celui-ci semblait mu intérieurement par 1000 ressorts, car il s'agitait en tous sens sur sa chaise et ne cessait de gesticuler avec ses mains. Je remarquai distinctement qu'il me regardait tantôt avec un visage, tantôt avec un autre, et je sentis à cette vue une sueur froide couler de mes cheveux sur mon dos. Il prenait surtout sa figure de vieillard pour regarder souvent l'autre, dont l'air de calme et d'aisance contrastait singulièrement avec l'excessive mobilité du petit, mais toutefois son aspect me parut alors moins effrayant que lorsqu'il m'avait envisagé moi-même la première fois. Dans cette mascarade de la vie humaine, l'esprit pénètre souvent d'un regard subtil à travers le masque du visage et reconnaît les esprits dont la nature est conforme à la sienne. Et c'est ainsi que nous trois, êtres à part et rapprochés par le hasard dans ce sombre caveau, nous reconnûmes sans doute une affinité réciproque. L'entretien prit donc cette tournure humoristique à laquelle provoquent les déceptions et les tortures mortelles de l'âme. « Cela porte aussi son épine, » dit le grand. « Eh, grand Dieu, m'écriai-je, épine ou crochet, combien le diable n'en a-t-il pas semé partout à notre préjudice, sur les parois des murailles, sur les berceaux, dans les haies de rosiers, de sorte que nous laissons toujours quelques lambeaux de notre cher individu accrochés au passage. On dirait, mes dignes maîtres, que chacun de nous a été déjà dépouillé de la sorte. Pour moi, je regrette surtout cette nuit l'absence de mon chapeau et de mon manteau. Tous deux sont restés, comme vous le savez, pendus à un clou dans l'antichambre du conseiller de justice. Mes deux compagnons tressaillirent visiblement comme frappés d'une secousse imprévue. Le petit me lança un regard horrible avec sa figure décrépite, puis il sauta brusquement sur une chaise et tira plus avant le rideau qui couvrait la glace, tandis que le grand mouchait les chandelles avec un soin tout particulier. La conversation se renoua péniblement. On vint à parler d'un jeune peintre de mérite nommé Philippe et de son portrait d'une certaine princesse, remarquable par un sentiment profond de l'art et de l'infini, fruit d'une ardente inspiration et d'un amoureux enthousiasme. « Ressemblance surprenante, dit le grand. Il n'y manque que la parole. En vérité, ce n'est pas un portrait, mais une image, un reflet. Au point, dis-je, qu'on pourrait le croire dérobé au miroir même. » À ces mots, le petit bondit en l'air avec fureur, et fixant sur moi le regard enflammé de son vieux visage, il s'écria « Mais ceci est stupide, quelle absurdité! Qui peut dérober une image réfléchie par une glace? Qui cela ? Peut-être le diable, imagines-tu? Oh, l'ami, celui-là, il brise la glace de sa griffe brutale, et l'on verrait saigner aussi les mains blanches et délicates de cette image de femme blessée. Oh non, ce serait stupide. Oui, non, l'ami, l'homme, allez, fais-moi te voir et toucher un reflet dérobé à un miroir, et je fais devant toi le saut périlleux de 1000 toises d'élévation. » Le grand se leva, s'approcha du petit et lui dit « Ne faites pas tant l'arrogant, camarade, autrement on vous fera enjamber plaisamment l'escalier. Parbleu, il doit y avoir un air bien pitoyable, votre reflet à vous. »« Ah 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 !» fit le petit en glapissant avec un rire sardonique. « Ah 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 ! Tu crois ? Tu crois ? J'ai ma belle ombre au moins. Entends-tu, pauvre garçon ? Moi, j'ai ma belle ombre !» Et en disant cela, il s'enfuit. Nous l'entendîmes encore ricaner dehors et répéter ironiquement « J'ai du bois mon ombre !» Le grand était retombé sur sa chaise comme anéanti, et cachant entre ses mains sa figure pâle comme la mort, il poussait du fond de sa poitrine les plus douloureux soupirs. « Mais qu'avez-vous ? » lui demandai-je avec intérêt. « Oh, monsieur, me répondit-il, ce méchant homme que vous venez de voir acharné contre moi, qui m'a poursuivi jusqu'ici, jusque dans mon bouchon préféré, où je séjournais autrefois tout seul, car c'est tout au plus si de temps en temps un petit gnome souterrain se dressait sous la table pour faire sa récolte des miettes de pain. Ce méchant homme vient de me replonger dans l'excès du désespoir. Hélas, j'ai perdu irrévocablement mon... Je suis votre serviteur. » Il s'était levé et sortit à son tour en traversant le milieu de la salle. Tout resta lumineux autour de lui, son corps ne projetait aucune ombre. Ivre de joie, je m'élançai sur ses traces. « Pierre Schmilil, Pierre Schmilil !» m'écriai-je avec transport. Mais il avait quitté ses pantoufles. Je le vis enjamber la haute tour de la caserne des gendarmes et disparaître dans les ténèbres. Lorsque je voulus rentrer dans le cabaret, l'hôte me ferma la porte au nez en s'écriant: « Oh, que le bon Dieu me préserve de semblables pratiques !»